et bienvenue sur Story Feeling, le podcast qui t'ouvre en grand les portes du design retail, ce métier qui crée tant d'émotions et dont les acteurs sont si discrets. Je suis Raphaël Malou, je dessine des boutiques, des vitrines, des expériences clients, cela me passionne et j'ai eu envie de créer ce qui me manque, un lieu de partage, d'expression et d'apprentissage commun. Ainsi, chaque mois, je donne la parole à ceux qui font le design retail en France, créatifs et artisans, avec l'envie de mettre en lumière leur vision, leur sensibilité et leurs idées. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vision d'Eva Iskanian. Eva est designer retail, elle a un parcours impressionnant. Elle est passée chez Malherbe, chez Minalé, que des grandes agences parisiennes, avant de fonder son propre studio de design éponyme, Eva Iskanian, il y a 10 ans. Et à la faveur d'une rencontre avec un client bien particulier, elle a eu une révélation qui l'a fait pivoter dans sa pratique du design retail. Et c'est justement cette révélation que je vous laisse découvrir dans cet épisode. On plonge dedans ?
Allez !
Allez, go ! Alors, Eva, est-ce que tu pourrais raconter un peu comment tu es tombée dans ce métier du design retail ?
Écoute, je suis tombée dans ce milieu. D'ailleurs, est-ce que le mot « tomber » est juste ? Parce que je l'ai choisi, en fait. J'ai choisi, je sais qu'il y a pas mal de gens dans ma génération qui se sont retrouvés par hasard dans des agences de design à faire du retail un peu par dépit. Moi, ma rencontre, en fait, avec le retail, elle s'est faite très tôt quand j'étais étudiante. J'ai eu la chance de savoir, en fait, assez tôt que je voulais faire du design et des arts appliqués. Donc, j'ai fait un bac art appliqué. Et à cette occasion, on touche à plein de matières différentes. Et dès lors qu'on me demandait de travailler sur des espaces commerciaux, sur des stands et même sur de la publicité, dès lors qu'il y avait une problématique marketing et de la création, ça me plaisait. Et donc tout de suite, à l'issue de mon bac, j'ai vraiment su que c'était cette voie-là et je me suis orientée dans une voie... l'espace de communication à Olivier de Serre qui m'a permis de concilier et le marketing et la création et de se rapprocher du retail.
Et est-ce que tu saurais nous dire un peu pourquoi cette dimension marketing, elle te plaisait ? Parce que comme tu dis, on peut faire du design pur et dur aussi. Et toi, tu as senti qu'à chaque fois, il y avait un plaisir particulier
Oui, parce que ça nourrit en fait un trait de ma personnalité qui est très analytique. Je suis très observatrice, très empathique. J'aime l'analyse du comportement des gens. J'aime les comportements d'achat. Et ça, mixé avec la création, en fait, me permet vraiment de nourrir ces deux aspects de ma personnalité. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai toujours eu cette approche très stratégique couplée à la création.
Parce qu'aujourd'hui, tu exerces du coup à la fois dans ta propre agence et en même temps en tant que freelance pour des agences de design global. Tu es vraiment sur les deux niveaux en fait.
Oui, alors essentiellement et majoritairement aujourd'hui plutôt pour mon studio, ma mission a un peu changé en fait avec les agences. Avant, effectivement quand j'ai débuté la voie de l'entrepreneuriat il y a 10 ans, je travaillais comme freelance pour ces agences. Aujourd'hui, j'ai plutôt une posture de conseil même pour ces agences où je vais les accompagner sur des problématiques stratégiques. Je peux parfois même faire un peu de coaching de collaborateurs ou s'inscrire en tant que partenaire, même en new business avec ces agences. Ma position a un peu changé, mais c'est important pour moi aussi de garder ce lien avec ces agences, parce que c'est vraiment des incubateurs, c'est vraiment une phosphore, c'est très phosphorescent en fait en termes de créativité, donc je le garde. On est honnêtement sur un rapport à peu près de 90% de business personnel et 10% avec les agences.
Et qu'est-ce qui t'a poussée à devenir indépendante ?
Comme on en parlait tout à l'heure, j'ai cette vision stratégique qui est très forte et qui est nécessaire en fait à mon processus de création. Et il est vrai qu'en agence, et surtout dans des grandes agences de design, les univers fonctionnent un peu en silo. On a d'un côté des planeurs stratégiques, des commerciaux, des créatifs. Et j'avais besoin de résoudre cette partie, de vraiment réunifier tout ça. C'est compliqué d'incarner tout ça au sein d'une agence. C'est un poste qui n'est pas évident. Donc, être à mon compte, c'est, ça a été vraiment pouvoir, l'idée de pouvoir réunir ça et proposer vraiment une approche globale qui d'ailleurs s'est étendue puisque j'accompagne mes clients aujourd'hui à la fois sur l'amont, sur le positionnement, la stratégie, la création, mais aussi sur l'après, c'est-à-dire la commercialisation du concept, l'accompagnement au changement, la formation des équipes qui vont porter ce concept.
Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de défi aussi à ce moment-là de se mettre en indépendant ? Comment, au moment où tu as fait ce choix-là, il y a 10 ans justement, est-ce que le design retail existait en tant qu'indépendant ou est-ce qu'il n'y avait vraiment que les grosses agences à Paris qui drivaient ce milieu-là ?
Oui, bien sûr, il existait. D'ailleurs, en fait, on faisait appel en agence à beaucoup de freelance. Je ne l'ai pas du tout senti comme un défi, en fait. Je l'ai vraiment senti comme une évidence. J'arrivais, en fait, à un niveau de séniorité, puisque j'avais 8 à 10 ans d'expérience. Ce moment où on sait que toutes les agences de design nous ouvrent leurs portes. Elles me tentaient toutes. Et en même temps, je ne me voyais pas forcément poser mes valises dans une autre agence. Et c'était le moyen, à ce moment-là, pour moi, de prendre le meilleur de chaque agence, de pouvoir faire quelques missions chez elle, et puis de commencer à tracer ma route aussi avec ma propre volonté de designer selon mes codes, mes intentions, avec cette dimension stratégique et créative.
Ouais, de créer ton propre parcours créatif, justement, de l'amont à l'aval, comme tu disais.
Oui.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un projet dont tu es particulièrement fière, que ce soit forcément soit dans ton agence, soit dans une agence partenaire ?
Alors, un projet, c'est compliqué, parce que je suis fière de plusieurs projets, mais fière pour des raisons différentes. Et c'est ça qui est génial, en fait, hein, dans notre métier. Tu vois, je suis fière de mon tout premier magasin que j'ai dessiné vraiment de A à Z. C'était il y a 15-16 ans, c'était une première boutique, en fait, un flagship pour la marque de chocolat Côte d'Or à Bruxelles. Et là, j'ai fait vraiment l'expérience de cette conception de A à Z. Donc, je suis fière parce que c'était cette première fois. Je suis fière d'avoir travaillé pour des très belles marques. Tu vois, j'ai eu la chance d'accompagner, avec une agence, bien sûr, mais la marque Citroën, pendant 3 ans, où j'ai redesigné tout leur stand pour les mondiales de l'automobile. C'était magnifique, j'étais très fière parce que j'aimais beaucoup cette marque, et même familialement, tu vois, dans toute ma famille, il y a eu beaucoup de conducteurs de Citroën. Donc ça, c'était une grande fierté. Je travaillais pour McDonald's aussi, et c'était sympa parce qu'on a pu tester une partie de mon design dans leur Innovation Center à Chicago.
Grosse fierté, ouais.
C'était avec l'agence W. Donc voilà, ça c'est... En fait, il y a toujours des raisons qui font que c'est...
Bah alors, peut-être que la question est mal tournée. Peut-être que la question, c'est au fil des projets, où sont tes grands points de fierté, justement ? Dans quel moment tu sens que tu as particulièrement réussi quelque chose, soit avec le client, soit avec la technique de design, soit avec l'idée créative ?
En fait, je parlerai... Là, j'ai envie de parler d'un projet. C'est peut-être un projet, on va dire, pivot, parce qu'il a changé des choses dans ma manière de concevoir. C'est un projet qui peut paraître comme ça moins prestigieux que les belles marques que je t'ai citées, mais en même temps qui a été assez incroyable comme expérience. Il y a 6-7 ans, j'ai été contactée par un grand acteur de la distribution de proximité, qui est un logisticien et grossiste et qui équipe en fait des commerçants de proximité. Ça va de la boulangerie à l'épicerie, au magasin de presse, au tabac, au pétrolier. Et ce fameux acteur m'a interrogée pour l'aider à l'accompagner dans sa stratégie de pérennisation et de développement de son activité. Et la question était vraiment intéressante, puisqu'il y avait cet aspect stratégique, bien sûr. Et une de mes réponses a été de lui dire, mais écoutez, je vous propose qu'on travaille sur un nouveau modèle de magasin, qu'on crée ensemble un concept de magasin, une sorte de drugstore de proximité qu'on a créé pour des commerçants indépendants, pour des des magasins de presse, des vendeurs de journaux. Dans ce drugstore, on y trouve plein de produits de dépannage, de jeux, d'hyper proximité, une sorte de 7-Eleven, en fait, à la française. Et là, pour la première fois de ma vie, en fait, il y avait une personne dans ce magasin qui habite le lieu, qui habitait le lieu et qui est un paramètre, un ingrédient majeur qui a été intégré, en fait, au processus de création.
Là, tu parles du coup du commerçant qui est H24 dans sa boutique, sa propre boutique. Et...
C'est ça, ce commerçant, cet homme ou cette femme, avec son histoire, avec souvent son histoire familiale, parce que des commerces, en fait, se transmettent de grand-père à père en fils. Et je parle de première fois parce que c'est vrai qu'en tant que designer retail, nos sujets travaillés en agence sont surtout des sujets de marque et d'entreprise. Nos clients sont des directeurs de la communication, des DG, des présidents. On a rarement affaire, en fait, à un directeur de magasin. On a rarement affaire à un créateur, en fait, indépendant. Et donc, il n'est pas dans cette équation, en fait. Donc, nous, en tant que designer, on va se concentrer sur l'histoire de la marque, l'incarnation de la stratégie, sur le parcours client. On va être très focus sur le consommateur. Et c'est important, évidemment. Et bien là, d'un coup, celui qui prend le pas, celui qui a toute sa place, c'est le commerçant.
Mais parce que tu as fait le choix, en fait, dans ce que je comprends, de ce que tu m'as raconté, de la façon dont tu crées ces projets et que tu vas totalement développer par la suite, on va en parler, c'est que c'est quand même toi qui fais le choix de donner sa place à cette personne, à ce commerçant, au cœur de son commerce. C'est-à-dire que tu aurais pu continuer dans ce que tu sais faire, à savoir être consumer-centric et développer toute la boutique autour du parcours client uniquement et des désirs et des besoins de ce client-là. C'est un choix que toi, tu as fait ou est-ce que ça faisait partie du brief dès le départ? Est-ce que ça fait partie de ton déclic?
Alors ça a créé le déclic, mais je pense que c'est même pas une question de choix, c'est que ça s'impose comme ça en fait. Tu as un individu en face de toi qui a des motivations, qui a une histoire, qui a une personnalité. On ne peut pas en faire abstraction en fait. Et on a c'est à nous en fait de créer une alchimie, une place pour que la personne en face te fasse confiance. Et ça se crée par de la communication, par de la complicité, par le fait de s'ouvrir. Faut que la personne puisse s'ouvrir, en fait. Si je ne fonctionnais qu'en termes de performance commerciale, parcours client, ça ne marcherait pas. Parce que la personne, en fait, un commerçant indépendant a une âme, en fait. La boutique, elle a une âme.
Donc toi, tu es arrivé avec tout ton arsenal de techniques, zone chaude, zone froide, produits de destination, produits de désir. Et en fait, tu t'es retrouvé face à cette personne qui t'a dit, bah voilà, moi, mon commerce, c'est, je l'hérite de mon père, voilà mes ambitions. J'aimerais beaucoup que dans l'entrée, on puisse avoir tous les livres pour enfants. Et finalement, ça t'a un peu chamboulé dans ta méthodologie. Ou dès le départ, tu as créé justement une méthodologie sur mesure pour travailler avec ces gens-là?
Non, ça s'est créé vraiment. Ça s'est créé tout de suite, mais je ne l'ai pas anticipé en fait. C'est que. Et tout de suite, j'avais en face de moi une personne. Après, ma nature fait que je suis quelqu'un qui suis très à l'écoute, très observatrice et en fait, je suis tout de suite touchée par les gens. Et quand la personne m'a parlé quand tu travailles avec un commerçant indépendant, que ce soit un pâtissier, un libraire, un fleuriste, un vendeur de journaux, de la même manière que tu poserais la question d'une marque en disant quand est-ce qu'a été créée votre marque, quand est-ce qu'a été créée cette marque, t'as envie de leur demander, tu leur demandes tout de suite, mais où est-ce que quand est-ce que l'histoire a commencé, en fait? Comment vous êtes devenu pâtissier? Comment vous êtes devenu libraire? Et là, les gens te racontent une partie de leur vie. Et c'est ça aussi qui nous permet c'est ça qui va vraiment servir d'ingrédient à la création. Et après, nos réflexes de bon designer retail, de merchandiser, sont là. C'est très clair, évidemment. Ça fait partie de nous. Donc on en parle. On en parle, mais tout va partir d'abord de l'histoire de la personne. Et ça s'est fait tout de suite, à partir du moment où j'ai créé, en fait, cette place et ce dialogue avec le commerçant.
Ok, donc pour résumer, quand on design pour une marque, il y a une histoire de marque, il y a une légende, il y a un storytelling. Et finalement, quand tu t'es retrouvé face à un commerçant et plus à un directeur de marque ou un directeur marketing au nom d'une grande marque qui a sa renommée et sa réputée, quand tu t'es retrouvé face à ce commerçant-là, tu t'es retrouvé face à une histoire beaucoup plus palpable qui ne pouvait pas être du domaine du storytelling au premier lieu, puisque toi, finalement, après, dans le design, tu vas réussir à traduire tout ça, mais tu t'es retrouvé avec une histoire beaucoup plus, finalement, terre-à-terre, avec des rêves à une échelle qui sont peut-être beaucoup moins mondiaux, internationaux, ce genre de choses, mais des rêves à taille humaine et à taille d'une vie aussi. Et toi, tu étais la personne qui allait justement aider ce commerçant à pouvoir passer d'un point A de sa situation actuelle finalement à une situation dont il rêve peut-être depuis des années.
C'est ça. Et à plusieurs niveaux. Effectivement, en marque, on va parler de storytelling. Là, on va parler d'histoire de vie, hein, parce qu'on est complètement dans l'humain. Donc, si la personne en est d'accord, moi, je vais l'aider vraiment à révéler son positionnement unique, à aller chercher ce qui fait que ce pâtissier est différent de l'autre, au-delà de ses gâteaux, en fait, parce qu'il y a une dimension supplémentaire. Donc ça, je vais l'aider effectivement à révéler ça, à incarner ça. Je vais l'aider à créer de la performance, évidemment, dans son lieu, à répondre à toutes les problématiques retail qu'on connaît. Ça, c'est, on va dire, la partie la plus facile et la plus innée, finalement, pour nous. Et puis, ça peut peut-être te paraître étrange, mais... Il y a une autre dimension que j'ai pu remarquer au fil des années, puisque ça fait 5 ans maintenant que je travaille aussi en partie pour ces commerçants indépendants. C'est toute une dimension sur le rôle un peu thérapeutique du design et de nos interventions.
Ça m'intéresse beaucoup, ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, c'est, je sais que ça paraît curieux, mais... Quand on transforme un lieu, on ne transforme pas que le lieu, on transforme la personne. Et on le sait, ça passe par des questions d'énergie, ça peut remettre les choses à leur place. Et en fait, j'ai toujours capté en fait la raison pour laquelle je venais travailler pour cette personne et pour je devais faire cette rénovation en fait et elle était souvent tout autre que celle de rénover et de travailler purement sur le lieu. Par exemple, tu vois, je pense à un magasin de presse. C'est souvent les commerces de proximité se transmettent de père en fils, hein, comme je le disais. Donc ça remonte parfois à 4-5 générations. Et en fait, on se rend pas compte à quel point, en fait, quand le petit dernier décide de refaire son magasin, d'agrandir, de changer son offre, de changer ne serait-ce que le positionnement de son comptoir, de changer son design. À quel point lui, ça le réancre dans sa place, en fait. À quel point lui va s'imposer, va imposer sa nouvelle vision. Et ça, c'est quelque chose que je capte, en fait, assez facilement. Parce qu'en général, en plus, je me rappelle très bien de cet exemple où ce monsieur était venu aussi avec sa mère, parce que tout le monde, toute la famille était autour de cette rénovation. Et sa mère était très, très invasive, en fait. Elle faisait le brief un peu à la place de son fils. Et j'ai bien vu qu'au fur et à mesure, en fait, de tout ce processus de travail, de la présentation jusqu'à la présentation du projet, le suivi des travaux, j'ai bien vu, en fait, le rééquilibrage de la position du fils par rapport à sa mère. Voilà. Y a d'autres exemples, tu vois. Je viens pour refaire un magasin. On parle du magasin, de l'histoire, de ce que j'ai raconté avant. Je le fais bien, mais je sais pas. Ça fait une heure et demie que je suis sur place et je me dis, bah, il manque un truc en fait. Je comprends pas pourquoi je suis là. Et en fait, j'ai compris, après discussion justement avec ce commerçant, que la vraie raison pour laquelle je devais venir, c'était pour lui créer en fait un bureau, un vrai espace de travail, l'espace du travail d'un dirigeant, d'un vrai entrepreneur, d'un vrai chef d'entreprise. Parce que le monsieur que je venais voir, je l'ai trouvé fatigué, je le trouvais un peu sensible. Et en analysant en fait son lieu, j'ai regardé son bureau, et il mettait son bureau comme ça au milieu de sa réserve. Et je me suis dit, bon, là, il est temps aussi que lui reprenne sa place, reprenne sa position. En fait, j'ai travaillé son projet avec beaucoup de cœur, tu vois, avec beaucoup d'intelligence, tout son magasin, ça lui a beaucoup plu. Mais vraiment, l'essentiel de mon énergie, je l'ai travaillé indirectement, en fait, sur son bureau. Et je sais que ça va tout changer, en fait. Tu vois, ça va changer dans son mode de management, voilà, il passe d'un stade de patron à chef d'entreprise, en fait, dans son
ouais, commerce. Et c'est énorme à l'échelle à la fois de son commerce, mais à la fois de sa vie personnelle, en fait.
Mais exactement, tout résonne, en fait. Tout est résonance. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, je sais pas, la vie m'a envoyé des situations qui étaient incroyables, tu vois, parce que comme je tisse cette relation avec ses clients, j'ai des clients qui se sont confiés même sur des maladies, tu vois, des maladies, des cancers. J'ai une femme qui est devenue une amie, en fait, après. Et pendant le processus de création, parce que je voulais vraiment créer en même temps qu'elle, donc on s'est mis sur Skype, et puis j'ai dessiné, j'ai fait de la 3D en même temps qu'on avait cette conversation. Et au moment où elle m'annonce très pudiquement qu'elle a un cancer et que c'est compliqué pour elle, écoute, immédiatement, ça a changé mon dessin. En fait, je lui ai dit, écoute, tu m'autorises à casser toute ta façade. Elle me dit, bah, comment ça? Je dis, oui, je pense qu'il faut qu'on me casse. Elle me dit, mais c'est pas possible ce que tu fais. Je dis, si, si. Et on va rentrer la lumière, on va faire laisser rentrer la lumière dans ton magasin. Et en fait, ça faisait des années qu'elle travaillait dans un magasin qui était assez sombre. En plus, elle est dans le nord de la France et il y a beaucoup de briques, en fait, dans les magasins, beaucoup de sous-bassements. Et là, c'est tout ouvert. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'elle travaille avec la lumière du jour. Elle travaille avec une perspective sur l'extérieur.
Cette histoire, elle m'a beaucoup, beaucoup touchée. Tu me l'avais racontée dans une conversation où justement, on était en train de parler d'autre chose. Et à ce moment-là, j'avais déjà l'idée de ce podcast. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça, il faut absolument que tu puisses venir, en fait, sur le podcast raconter ça. Parce qu'en fait, tu fais rentrer, en travaillant comme ça avec ton intuition et en creusant un peu plus la personnalité du commerçant, et j'imagine que c'est aussi un travail que tu dois faire de creuser petit à petit, d'amener des questions, de revenir à certaines questions pour justement obtenir des indices ou peut-être obtenir justement, comme tu dis, des confessions. C'est en faisant ça, tu fais rentrer des paramètres nouveaux, en fait, dans notre métier. C'est ça que j'aime énormément dans ta démarche. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Quand tu m'as raconté ça, moi, ça m'a immédiatement fait réfléchir à fond. J'ai adoré ce que ça a créé dans mon cerveau, en fait. Et l'idée de ces paramètres nouveaux, oui, c'est de pouvoir prendre un pas de recul sur ce qu'est donc le design retail et toute notre réflexion autour du design retail pour reprendre cette notion de base du design tout court, à savoir d'être au service de la personne et au-delà, comme tu dis, d'une performance où nous on est habitué, on connaît les techniques et on les applique avec énormément de plaisir parce qu'on sait en fait à quel point une rénovation de commerce peut faire passer un commerce de rien à tout. Au-delà des techniques, de réintégrer la base du design, de cet apprentissage qu'on a justement au tout début de notre formation de designer, avant même qu'on devienne des designers commerciaux, de cette idée d'humain, de service à l'humain, de ce qu'un humain peut devenir dans son espace et de ce qu'un espace peut faire de l'être humain qui l'habite. Et en fait, avec ton intuition, avec ton déclic, tu as réincarné ça. Et je trouve que c'est à la fois hyper touchant et en même temps, ça rend ces rénovations encore plus spectaculaires, finalement.
Oui, et tu as raison dans la prise de recul, en fait, quand tu parles de ça. Parce que pour moi, ce que je fais, c'est vraiment du design, en fait. Et le design commence par l'empathie. C'est vraiment la première étape, hein, même d'un processus de design thinking. Mmh. C'est ça, cette capacité d'analyse, ça s'appelle empathie.
Oui, mais difficile de parler d'empathie quand on est à l'échelle d'une marque. Une empathie pour une marque, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas avoir une empathie pour quelque chose de, pas d'abstrait, mais de conceptuel, tu vois ?
Non, mais tu l'as pour les consommateurs, en fait. Je ne sais pas si toi, dans ton processus de création, tu l'as, mais moi, depuis mes premiers souvenirs en fait, de conception en retail, ma phase d'empathie, elle est justement pour ces clients qui vont visiter ce magasin. J'ai toujours essayé de me mettre à la place de ce client. Sauf qu'en fait, tu vois, je me mettais à la place. C'est intéressant qu'on en parle parce que pour les marques et pour les consommateurs, j'essaie de me mettre à la place d'eux. Alors que là, cette empathie dont on parle avec ces commerçants indépendants, je suis vraiment plutôt dans une position de réception, tu vois.
Intéressant.
Je crée ce climat, je reçois, j'écoute et je reproduis quelque chose.
Donc, ça a changé ton process de design, finalement. La position que tu as
avec eux, complètement. Bah oui, complètement. Pour moi, tu vois, c'est cette rencontre avec l'humain, avec les commerçants de proximité, a vraiment été a été un vrai shift dans ma carrière. Je sais que le premier qu'il a été, ça a été l'arrivée du e-commerce, puisque j'ai connu en fait cette transition alors que je travaillais. Donc le e-commerce a quand même été une occasion magnifique pour les designers retail de se réinventer et c'est ça qui a manifesté tout le travail et tout l'air sur l'expérience client, les expériences de marque. Donc moi qui m'allais très très bien parce que j'adore, c'est vraiment le design de service, le design d'expérience, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ça a été un premier shift. Et puis là, cette découverte du travail avec des commerçants indépendants, là a été un deuxième parce que là aussi, ça a modifié en profondeur ma manière de concevoir. Et ça a même été jusqu'à avoir un impact aussi sur mon business puisque j'ai créé une société en plus de mon activité, en plus de mon studio Eveige Cagnon. J'ai créé vraiment une société à part qui est vraiment spécialisée pour ces commerçants indépendants, qui est vraiment dans une démarche hédoniste. Je dis hédoniste, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je me fais plaisir autant que je fais plaisir en fait. À travers ça, l'idée, voilà, c'est vraiment de révéler le positionnement unique des gens, de leur créer un point de vente signature unique à partir de ce qu'ils sont, de leurs ambitions, d'embarquer avec eux dans une histoire, dans leur histoire et dans la création ensemble d'un point de vente. Et je donne autant que je reçois, voire même je pense que je reçois plus que ce que je donne. C'est génial parce que les gens me partagent des histoires et des moments incroyables, des moments de vie incroyables.
Et comment tu incarnes physiquement dans l'espace ce que tu me dis, c'est-à-dire cette personnalité, cette histoire individuelle du commerçant? Comment tu traduis ça? Parce que finalement, une marque, elle a un branding établi, elle a des codes couleurs, des codes matériaux, elle a des influences, des références. Toi, quand tu arrives face au commerçant, est-ce qu'il a déjà une identité visuelle ou est-ce qu'il a rien du tout? On part de rien.
Ça va partir de son histoire, en fait. Ça va vraiment partir de son histoire et de son vécu. Parfois, il y a des choses vraiment à raconter. Il y a déjà un patrimoine, puisque tu peux avoir un patrimoine vraiment humain et familial. Et ça, on va dire que c'est ce qui est le plus facile, parce que je vais le raconter. C'est très facile de l'incarner dans des palettes de matériaux, dans des choix de photos, dans un wording. Voilà, donc ça peut être la version la plus simple. Et puis, après, ce sont des échanges très concrètement, tu vois, autour de moodboard, autour de dessins, parce qu'on part de quelque chose de palpable, hein, d'une histoire. Et puis après, il y a des choses qui sont moins narratives, en fait. Hein, justement, quand on parlait de cette dame qui... cette dame qui avait un problème de santé, d'un fils qui doit prendre sa place dans son magasin.
Finalement, ces paramètres dont tu dis qu'ils sont moins palpables, qu'en tout cas tu ne peux pas nommer à voix haute, c'est des choses qui sont induites, implicites, c'est des intuitions que tu as, c'est parfois des confessions. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que dans le résultat final de la rénovation de leur point de vente, ça va finalement prendre la plus grosse place. C'est-à-dire que tu détruis quand même une façade. Tu décides quand même de créer un méga bureau pour qu'une personne puisse enfin se sentir propriétaire et maître de son activité. C'est quand même des choses qui vont prendre énormément de place dans le design final. Donc finalement...
Ouais. Et oui, c'est vrai. Donc en fait, ça ne se calcule pas. Je le fais vraiment en écho avec ce que l'on me raconte. Et surtout, je ne le justifie pas auprès du commerçant. Je le fais en subtilité.
Ok, ça doit être la phase la moins simple, j'imagine.
Ouais.
Parce que cette femme dont tu détruis la façade, elle t'a demandé pourquoi avant quand même. Ça l'a un peu fait flipper. Il faut pouvoir...
Non, alors là, pour le coup, j'ai repris ma casquette de designer en lui disant « Non, mais c'est génial, ce sera beaucoup plus joli, tu vas augmenter ta visibilité. » Donc là, j'ai toute ma palette d'arguments de 20 ans de design retail. Le bureau, je l'ai titillé en lui disant « Tu sais, tu as le bureau le plus petit que j'ai vu de tous les commerçants indépendants. » Voilà, je trouve toujours, en fait, une raison, et une raison autre.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais ça se fait, il n'y a pas d'objection. Après, ça se fait.
Est-ce que tu penses que les gens arrivent à ressentir implicitement le bien que ça va forcément leur apporter?
Oui, mais parfois, tu vois, il faut les accompagner aussi. Il faut les accompagner parce que forcément, tu peux avoir une résistance en interne chez ces gens-là. Parce que là, on est un peu dans le domaine de l'invisible, hein, mais effectivement, si ce monsieur n'a pas son bureau, c'est parce qu'il ne s'autorise pas à avoir son bureau. Donc je le motive. Après, je sais très bien faire ça. Donc, je motive, je trouve d'autres arguments. Et...
C'est hyper beau comme histoire, quand même.
Ah, mais c'est génial. Moi, ça me donne des papillons dans le ventre.
Moi, quand j'entends tes histoires, j'adore. Non, ça se voit pas, mais on est toutes souriantes, toutes les petites pommettes roses et tout. C'est énorme quand même de se rendre compte que, c'est tellement acquis pour nous de pouvoir apporter de la performance et de l'esthétisme. Et en même temps, on se rend compte que pour ces personnes-là, d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser après, mais on rentre aussi en discussion avec des personnes qui ne calcule pas forcément toujours la place que le design peut prendre dans leur vie et le rôle que le design peut prendre dans leur vie. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple, quand j'habitais dans le 13e, ma fenêtre de chambre donnait sur toutes les barres d'immeubles qu'on peut avoir dans le 13e, et j'ai toujours adoré regarder les fenêtres et les couleurs aux fenêtres la nuit quand elles sont allumées. Et j'ai toujours été sidérée de voir à quel point les gens choisissent des néons ou des ampoules de lumière blanche. Et moi, en tant que designer et au-delà de ça, en tant que personne qui adore concocter des univers et créer de la chaleur et de la dimension et de la texture, j'ai toujours été épouvantée de me dire qu'on pouvait vivre H24 ou en tout cas rentrer le soir du travail et se retrouver dans une pièce au mur blanc avec une ampoule blanc froid. Je me suis dit, c'est le terrain, mais juste parfait pour la dépression, la négativité, l'absence de sensualité. Et au contraire, on a des choses très drôles. On a énormément d'ampoules rouges où on a vraiment des fenêtres où à l'intérieur, c'est rouge, violet, jaune, vert, et ça, c'est très drôle. Mais c'est vrai que juste changer la couleur de son ampoule, à quel point ça peut nous apporter en termes de déstress, de détente, mais même de sensualité, de calme, de rythme cardiaque, c'est juste énorme. Et pour nous, en fait, designer, c'est totalement acquis, ça fait partie de notre palette d'outils. Mais comment tu fais, toi, quand tu te retrouves face à une personne qui n'a pas cette conscience du pouvoir derrière chaque choix, à la fois esthétique et à la fois formel?
Bah écoute, j'ai appris à le faire avec la métaphore, la comparaison. Parce que c'est vrai qu'on doit encore défendre nos métiers et, comme tu le dis, notre rôle et notre place. Mais j'utilise souvent la métaphore de la voiture. Ouais, tu peux aller d'un point A à un point B. Tu peux faire un Paris-Marseille en C3. Bon bah t'arriveras à Marseille. Et puis tu peux le faire dans une très belle Lamborghini. Et ton voyage, enfin ton trajet devient un voyage, ton expérience n'est pas la même et tu n'es pas le même conducteur.
Okay. J'aime bien cette idée du trajet qui devient un voyage. Mais tu vois, tu m'avais raconté l'histoire aussi d'un projet sur lequel tu avais senti une sorte de joie de vivre émaner d'une personne. Et tu avais décidé en fait de transformer ça sous forme de fleurs et d'avoir justement une présence florale incroyable sur un plafond, je crois, c'est ça ?
Ouais.
Comment tu... Surtout en plus, je me mets juste dans le contexte. Les buralistes, aujourd'hui, c'est une maison de presse avec du carrelage, souvent avec des murs bleu turquoise, jaune passé, un peu gris, un peu vieilli, des néons au plafond, un joyeux bazar, des cartons qui s'empilent parce qu'ils font aussi la fonction retrait de colis. Comment t'amènes une personne qui vit dans cette ambiance-là et qui est finalement dans l'ultra-fonctionnalité de son espace au détriment d'une esthétique, d'un confort, du visuel ou quoi que ce soit? Comment t'amènes cette personne à un plafond de fleurs, en fait?
Alors oui, dans ces cas-là, cette personne-là, effectivement, elle est buraliste. Comment je l'amène? Parce que déjà, on a beaucoup discuté ensemble. C'est une dame qui m'explique qu'elle a rencontré un grand nombre d'architectes, d'intérieurs, d'agenceurs, et qu'elle n'arrive pas du tout à être satisfaite par leurs propositions. Ça tourne en rond. Elle me montre ses propositions, et effectivement, enfin, ça répond à tous les besoins de fonctionnalité. C'est très efficace. On a un bon parcours. C'est mignon. Voilà. Et rapidement, je sens que cette personne, ce n'est pas ce qu'elle cherche, mais elle n'arrive pas à nommer ce qu'elle cherche. Et elle a déjà rencontré 5-6 personnes quand même. En même temps, cette dame, elle est vraiment hyper particulière. C'est une dame qui est généreuse, qui est extrêmement souriante. À chaque fois que je l'ai eue au téléphone et que je l'ai appelée pendant ses horaires d'ouverture, elle était toujours en caisse et elle parle à ses clients comme elle... en chantonnant, en fait. Hein. Bonjour. Je la sens très proche de ses clients. Je la sens... Enfin, c'est un rayon de soleil. Voilà, le mot qui me vient chez cette femme, c'est un rayon de soleil. Son magasin, c'est sa vie. Bon, tu me diras comme tous les commerçants indépendants. Hein. Mais elle me dit, voilà, tu sais, si j'ai pas cette petite dame qui vient me voir, alors qu'elle vient me voir tous les jours, ma petite cliente, si je sais que ça va pas, je l'appelle. C'est vraiment un pilier, c'est vraiment le rayon de soleil de beaucoup de gens. Et ça me paraît évident que c'est ça qu'il faut traduire dans son point de vente. Et que si elle ne trouve pas des réponses, en fait, à des réponses ou des échos aux propositions qui sont faites, c'est que les gens ne répondent qu'avec une réponse très, très magasin, en fait. Alors que c'est sa personnalité, c'est juste son miroir qu'elle a envie d'incarner. Et effectivement, la proposition, c'est, voilà, toi, t'es un bouquet de fleurs. Toi, t'es un rayon de soleil. T'es un bouquet de fleurs pour tes clients. Et c'est ce que je vais traduire, en fait. On va bien faire ton magasin au sol. Tu vas bien avoir tes linéaires de produits, tout ça. Ça, c'est OK. C'est le contrat de base du designer retail. En revanche, ce bouquet de fleurs, ce que tu es, je vais le traduire au plafond. Et ça se traduit par un grand plafond fleuri qui va même exploser sur la façade et qui va sortir. Voilà. Et ça, c'est elle. Et effectivement, c'est ce qu'elle cherche. C'était ce qu'elle cherchait, qu'elle n'osait pas. Après, évidemment, il y a tout un travail d'accompagnement pour oser, pour s'assumer, oui. Voilà. Mais quand on leur parle après, quand on explique cette démarche, on peut pas avoir d'objection là-dessus.
Il y a une prouesse quand même pour créer un tel renversement de perception dans ces commerces, à la fois à l'échelle de l'espace et à la fois à l'échelle du commerce en lui-même. C'est chapeau.
Ouais. Et ça fait plaisir, en fait. Tu sais, c'est vraiment un effet boule de neige. C'est ça qui est top avec les commerçants indépendants, mais dans tous les types de métiers, hein, tu vois, des métiers de bouche. Comme ils sont proches de leurs clients, non seulement tu fais du bien aux commerçants, mais tu fais du bien aussi à leurs clients. Et il y a une vague de bienveillance qui est absolument inédite, incroyable. On n'y pense même pas, mais ce sont des gens qui, encore un an après, reçoivent des félicitations, des éloges de leurs clients qui ont beau venir tous les jours.
C'est super.
Ah ouais, c'est génial.
Cette dimension de transformation et de renversement de perception, tu crées un commerce de destination choisie, contrainte, entre guillemets, c'est-à-dire je viens dans un bureau parce qu'il me faut tel numéro de tel magazine et tel paquet de club, par exemple, à justement une destination qui devient un moment de plaisir, un moment vécu avec une personne, avec un commerçant. Et finalement, j'imagine que le panier moyen doit être radicalement différent dans l'un ou dans l'autre. Ça, c'est des choses qui s'observent, qui s'analysent. Tu as des retours de la part des commerçants.
Mais bien sûr, tu as une augmentation de la visibilité, du trafic. Quand tu transformes des lieux, qui paraissent comme ça un petit peu hostiles visuellement, pas accueillants, en des lieux étonnants qui ne ressemblent pas du tout à ce que l'on attend de ces lieux-là, tu as de la curiosité. Il y a des nouvelles personnes, tu vois, qui rentrent dans ces magasins. Tu deviens plus légitime pour pouvoir vendre des catégories, des nouvelles catégories de produits.
Oui, ok.
Oui, ça attire des nouvelles personnes. Après, mon travail fait que aussi je les accompagne dans une stratégie globale. Tu vois, on intervient sur le magasin, mais je les conseille aussi très vivement sur, sur la partie communication digitale, sur, sur l'utilisation des réseaux sociaux. On travaille le parcours client au sens vraiment très global. Ouais.
En tout cas, ce que je trouve très drôle, c'est que, je ne sais pas si c'est le drugstore dont tu nous parlais, mais on a un projet sur ton, dans ton portfolio qui s'appelle Beau Drugstore. C'est tellement... il faut carrément mettre un mot dessus. Je ne sais pas, ce mot beau, ce nom de beau, c'est, qui l'a choisi?
Ah, mais c'est le client, en fait.
Après que tu lui aies proposé le concept.
Oui, c'est ça.
C'est génial.
Alors, bon, parce qu'en fait, on est dans le quartier de Beau-Grenelle aussi, à Paris.
Ah oui, d'accord, il y a quand même... Ça,
mais alors, lui, il l'a assumé complètement.
C'est génial.
C'est même lui qui l'a trouvé, ouais.
Le pouvoir de la transformation.
C'est ça. En tout cas, ce qui est génial, tu vois, c'est que dans les avis clients, typiquement de du studio que j'ai créé, tu vois, on parle pas de... Les lieux sont beaux, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas de ça dont on parle. Quand je demande des témoignages clients, tu vois, les gens vont parler de... On va parler d'Eva, la designer, mais on va dire Eva est une rencontre. Eva est une providence. Eva a été une étape.
C'est super. C'est une très jolie conclusion pour l'interview. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a soulevé et toutes ces questions hyper fortes et cette réflexion sur le design, ça me paraît un peu naïf ou de passer à mes petites questions de fin que j'adore parce qu'elles sont un peu en mode Madeleine de Proust. Mais bah, cette première question de quel matériau représenterait le mieux ta personnalité de designer elle revient un peu trop brutalement en terre à terre. Mais en même temps, tu vois, tout à l'heure, quand tu me disais on est dans une telle dimension de comprendre l'histoire et de traduire cette histoire que finalement, les choses très design comme le matériau ou la couleur vont un peu moins compter. Tu vois, dans ce drugstore, par exemple, tu as fait le choix d'un bois très chaud et très clair que tu as mélangé avec du noir et du blanc. Et on sent qu'en fait, cette palette de matériaux, elle soutient aussi totalement ton projet. Tu as vraiment choisi de créer des énormes surfaces avec ce bois très chaleureux et en même temps beaucoup plus contemporain puisqu'il est beaucoup plus clair. Tu as apporté énormément de lumière avec ton blanc et toutes les touches de noir, elles sont hyper élégantes. Elles apportent des contrastes visuels qui fait que cet espace, finalement, il prend une sorte de dimension classieuse et en même temps totalement abordable. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas non plus dans l'intimidation par le design de quelque chose qui serait sublimissime, mais du coup, finalement, qui ne nous inviterait plus à rentrer. Tu as vraiment réussi à créer cette parfaite symbiose d'élégance et en même temps de chaleur, d'invitation, d'humanité.
Ah bah le matériau, non, mais tu as raison, parce qu'il a quand même toute sa place. Il intervient vraiment en relais, en accompagnement, en fait, de ce que je fais. Parce que... Une fois que j'ai l'histoire, une fois que j'ai l'approche, je sais quel matériau va pouvoir résonner aussi avec tout ça. Mais en tout cas, il arrive en second temps, comme le dessin arrive en second temps, en fait. Et s'il devait y avoir un matériau qui représente et qui incarne pour moi tout ça et tout ce qu'on s'est dit, c'est évidemment le bois. Évidemment, le bois pour déjà sa vie d'avant, son côté vivant, pour son côté ancestral, pour son adaptabilité, pour sa présence universelle, pour ce grand écart possible, tu vois, entre les projets, entre les projets, tu en as partout, en fait.
Ouais. J'aime bien que tu ramènes un peu cette histoire ancestrale du bois. C'est vrai qu'on l'oublie un peu. Moi, c'est vrai que quand je choisis un bois, je suis plus dans l'idée de savoir s'il va apporter de la lumière ou si au contraire, il va apporter un contraste. Et finalement, j'oublie cette histoire. Et j'ai découvert récemment un fournisseur qui, lui, travaille vraiment le bois, où il va venir re-révéler la longévité, finalement, du bois. On peut choisir, en fait, entre un parquet très lisse et un parquet sur lequel il va y avoir un retravail artificiel, mais qui recrée, finalement, cette histoire-là que les laminoirs effacent, de veinage, de fibres, de petits accidents, de nœuds, de taches. Et on peut choisir entre plein de degrés différents et on peut re-raconter, refaire jaillir cette histoire-là. Et je trouvais ça hyper touchant. Je sais pas, j'ai vraiment scotché sur ces échantillons-là. C'est un très joli matériau, ça, c'est sûr. Très fort, très puissant. Ma deuxième question, mais finalement, cette interview, elle a été un peu remplie de ça. C'était quelle était une anecdote rigolote, croustillante, ou un problème sur un projet. Mais j'ai l'impression que sur chacun de ces projets, finalement, avec un commerçant, on est là pour... anecdote devient un mot qui est un peu vilain. Mais...
Oui, il y en a plein. Non, alors je ne sais pas si c'est le mot anecdote, en fait, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Plutôt un petit plaisir que j'ai, tu vois. C'est d'imaginer la boutique que je dessinerai pour tous les commerçants que j'aime. Mes commerçants de proximité, mon marché, j'adore le marché, mais vraiment, ça fait partie vraiment du voyage, en fait, hein, même de mes découvertes de pays. Et c'est un jeu que je fais tous les week-ends, en fait, de parcourir mon marché et d'imaginer pour chaque commerçant que je connais la boutique qui leur irait le mieux.
C'est trop mignon.
Et à chaque fois que je discute, parce que je prends vraiment le temps de discuter, de créer du lien, ça enrichit ma boutique. Voilà. À chaque fois que je vois la personne, je sais exactement à quoi ressemblerait sa boutique, son expérience, pour tous ces métiers de bouche. Donc, en fait, j'assume vraiment ce côté très libre et créatif maintenant. C'est un jeu pour moi.
C'est génial. Bon, bah, merci beaucoup, Eva.
Merci à toi, Raphaël.
Si vous êtes resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode, vous serez sûrement tombé amoureux ou en tout cas sous le charme de cette vision et de cette pratique très particulière du design retail qui consiste à travailler en direct avec justement un commerçant. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'interviewer Eva, justement pour qu'elle puisse nous raconter cette rencontre et ce pivot dans sa pratique. Je trouve ça particulièrement intéressant quand on est très habitué au design retail au sein d'une entreprise ou au sein d'une agence vraiment liée à une marque, de pouvoir prendre cette aventure assez différente dans laquelle les enjeux sont forcément très hauts mais aussi très émotionnels. Merci beaucoup pour votre écoute. Je mets en lien toutes les références au travail d'Eva. Vous pouvez la retrouver à la fois sur Instagram mais bien entendu sur son site internet. Et je remercie particulièrement Romain Verset à la production de cet épisode, au mastering et à la composition de cette jolie musique qui va suivre. À bientôt !